I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Audrey Ginisti, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de La Psy qui parle, qui est entre autres très présente sur YouTube avec des vidéos absolument passionnantes sur des problématiques très variées qui concernent bien entendu notre psychologie. Et pour cet épisode, j'ai souhaité qu'elle nous parle de burn-out et on va tout savoir sur le burn-out, comment le repérer, comment le traiter. Bref, ça a été un entretien absolument passionnant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Audrey.
Bonjour Gaël.
Audrey, je suis hyper content de vous recevoir, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je vous observe depuis un certain temps, car sous ce prénom Audrey se cache la psy qui parle. Alors bien entendu, je mettrai les liens vers votre Insta, votre YouTube, votre blog dans le descriptif du podcast. Mais donc vous avez quelque chose d'assez extraordinaire, vous arrivez à parler de sujets parfois anxiogènes, parfois complexes, mais avec une telle verve et un tel sourire et une telle... Vous ne vous écoutez pas parler. Voilà, c'est ça. Vous vous écoutez pas parler, vous parlez de façon simple, de choses complexes, et c'est extrêmement agréable. Et c'est pour ça que j'ai pensé immédiatement à vous pour parler d'un sujet ô combien anxiogène, le burn-out. Alors, juste avant de vous poser ma première question, pour rappel, on considère qu'au moment où on se parle là, alors vous allez me corriger si j'ai une bêtise, mais 2,5 millions de salariés français sont en burn-out sévère. 2,5 millions. Donc, entre 10 et 12% des actifs, ce qui est quand même assez énorme. Ah ouais, c'est gigantesque. Est-ce que vous, en tant que psy, c'est un sujet qui vous inquiète, le burn-out, ou vous dites, bah, c'est une pathologie comme une autre ?
Alors, ce serait impossible de dire que c'est une pathologie comme une autre et que ce n'est pas important parce que, déjà, parce que ça concerne énormément de monde, et ce sont surtout des personnes en souffrance. Après, effectivement, moi, alors, quand même que je précise certains points, c'est que je suis psy, mais je ne suis plus psy en cabinet comme on peut... l'entendre habituellement. J'ai fait ce travail pendant effectivement de nombreuses années. Mais là, je suis un petit peu plus, je dirais, du côté dirigeant, entreprise. Et donc, ce que je vois, c'est que souvent, en fait, les dirigeants ne savent pas toujours comment gérer ça. Comment prévenir un burn-out, comment faire en sorte de accompagner un collaborateur qui est en souffrance. Et de fait, c'est quand même quelque chose, à mon avis, qui va être de plus en plus fréquent dans les entreprises parce que c'est très lié, en fait, à une perte de sens, notamment. C'est-à-dire que donc le burn-out, pour reprendre très, très brièvement les symptômes fréquents, c'est un épuisement physique, psychologique, qui sont dus à un stress prolongé, notamment lié au travail. Donc, ça peut s'accompagner, évidemment, de symptômes physiques, d'arrêt maladie, etc. Bien sûr. Donc c'est assez coûteux, dirons-nous, à tous les niveaux, que ce soit pour le salarié.
Oui, et puis pour l'entreprise, effectivement, parce que ça peut être long, un burn-out.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'un salarié qui fait un burn-out, ce n'est pas une forme d'échec du management ? Parce que j'ai été un manager dans des grands groupes pendant un peu plus de 20 ans, et je suis assez fier de pouvoir affirmer qu'il n'y a jamais eu de burn-out dans mes équipes, parce que j'étais attentif aux signaux faibles. Un collaborateur ou une collaboratrice qui envoie des mails tous les soirs à 22h, c'est pas normal, on doit dire qu'il y a un problème. Or, le présentéisme numérique ou physique, il y a quand même beaucoup de managers qui n'y prêtent pas attention, non ?
Oui, puis après, il y a des habitudes qui se prennent, en fait. Alors, là où je vois des burn-out, je dirais, c'est aussi beaucoup dans des entreprises qui grossissent, enfin, qui ont une forte croissance. Vous avez, par exemple, voilà, une start-up que j'ai accompagnée. Donc, quand on est 3-4, tout se passe bien, on peut être attentif aux besoins de chacun. Les interactions se font facilement, même s'il y a beaucoup de charges de travail, souvent, quand même, quand on lance son entreprise.
Oui, il y a un enthousiasme.
Oui, voilà. Alors, en fait, tout le monde est porté par cette envie, cette joie. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est quand l'entreprise grandit et que là, on embauche un peu plus de monde, que les process sont de plus en plus complexes, Et en général, ça va plutôt de pair. C'est plus l'entreprise grandit, plus on rajoute de la complexité. Et de fait, bah, le manager, le dirigeant est beaucoup moins disponible pour être attentif à tous ces signaux.
Alors, quel conseil vous donneriez justement à un manager, peu importe, start-up, pas start-up, pour réduire la possibilité qu'il y ait un burn-out dans son équipe? Pas pour lui en tant que manager, mais dans son équipe.
Alors, je dirais que ça dépend de la taille de l'équipe, mais de manière générale, c'est évidemment d'être le plus possible au contact de ses collaborateurs.
Là, je parle d'une équipe, vraiment le niveau N-1, donc 5-6 personnes.
Okay.
Donc vraiment en management direct, parce qu'on ne peut pas demander au PDG d'une boîte de 10 000 personnes d'être responsable. Quoique, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, pendant très longtemps, le PDG d'IKEA se mettait le matin à l'entrée du siège social pour serrer la main de tous ses collaborateurs qui arrivaient. Anecdotique, mais fermons la parenthèse. Donc non, vraiment les N-1, donc 5-6 personnes.
Alors c'est vrai qu'il y a le fameux one-to-one qui est quand même recommandé, c'est-à-dire le fait de régulièrement avoir un temps d'échange avec ses collaborateurs. Ça peut être formalisé, c'est l'idéal, mais même de manière informelle. Alors après, ce qui est difficile, je dirais, c'est d'être à l'écoute de ses collaborateurs au-delà des mots. C'est-à-dire ne pas tenir compte uniquement de ce que la personne dit, mais de comment elle le dit.
Mais là, c'est-à-dire, faut être empathique.
C'est ça. Mais ça demande une certaine disponibilité. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est « oui, mais j'ai pas le temps ». Alors, c'est pas une histoire de temps, c'est pas une histoire de quantité. C'est, des fois, ça peut se jouer en deux minutes. Mais d'être vraiment présent pendant ces deux minutes et de demander à votre collaborateur comment il sent, comment il va, au niveau de la charge de travail, même au niveau personnel, c'est bien sans sûr. Forcément être dans le confident de cette personne-là. Mais d'avoir ce temps, je dirais, qualitatif, pour être à l'écoute des petits signes avant-coureurs. Après, il y a évidemment, on sait qu'il y a des facteurs classiques comme la charge de travail qui peuvent évidemment jouer. Et puis, un autre point que je trouve essentiel pour rebondir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est autour de cette perte de sens. Souvent, quand même, si vous voulez, les burn-out, ils n'arrivent pas dans n'importe quel contexte. C'est parce que vous avez des collaborateurs qui sentent un décalage entre leurs idéaux, ce qu'ils ont envie de faire, et ce qu'on leur demande, et ce qui se passe dans la réalité.
Mais c'est intéressant, c'est la première fois qu'on me parle de sens dans le cadre d'un burn-out, donc je veux bien que vous m'expliquiez plus clairement, comme si vous expliquiez à un enfant de 7 ans, histoire que je comprenne.
Mais alors, ce que j'appelle le sens, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que si on reprend le cadre d'une personne qui aura un burn-out, c'est vraiment cette idée de pourquoi je vais au travail. Voilà, là, je vais citer des verbatims entendus régulièrement. C'est je marche en mode pilote automatique, je n'ai plus d'envie, je ne vois pas pourquoi je fais telle ou telle tâche, ça n'a plus de sens pour moi. Au début, j'étais motivée, mais maintenant, voilà.
C'est là où on va être dans la phase de déni du burn-out et continuer à travailler alors que ça n'a plus aucun sens pour moi, c'est ça ?
Oui. Sans parler forcément de déni, mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas évident d'en prendre conscience. Voilà.
Et puis de s'avouer qu'on a un travail qui n'a plus aucun sens pour nous, humainement parlant, ce n'est pas simple.
Ah non, mais c'est très dur. C'est très dur, sachant que parfois, c'est vraiment une question de process. Je vois, du coup, moi, je connais les deux côtés, côté salarié, on va dire, et côté dirigeant, manager. C'est que parfois, en amenant simplement de la visibilité à ses collaborateurs, à ses équipes, en leur disant, quelles sont vos missions, pourquoi vous faites telle et telle tâche, peut-être que cette tâche-là ne vous semble pas cohérente ou qu'elle n'a pas de sens comme ça pour vous, mais voilà, je vous explique dans quelle structure elle s'agence, c'est peut-être pas le bon terme, mais de donner vraiment une visibilité beaucoup plus globale, de comprendre qu'on s'inscrit dans un projet plus général, dans une mission commune. Ça permet aussi de redonner du sens, parce que sinon il y a ce côté un peu taylorisme, j'ai envie de dire, où chacun fait son petit bout de tâche et finalement on ne voit pas l'aboutissement du projet, on ne sait plus à quoi on participe.
Mais est-ce que, avant de parler de sens, qui c'est effectivement très intéressant et important, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on rappelle aux managers quelques fondamentaux, comme, moi je suis très frappé de voir qu'une des premières sources de démotivation au quotidien des salariés, c'est le fait que leur manager ne leur dise pas « bonjour ». Et de rappeler au manager que dire « bonjour, virgule, ça va, point d'interrogation » et d'attendre la réponse, ça peut être une bonne petite méthode pour, ça prend très exactement une minute, pour voir un peu comment les gens se sentent. C'est une filiale de... du groupe Unilever, c'était la directrice générale qui m'expliquait que quand elle arrive, et ça fait partie de la culture de l'entreprise, elle ne va pas s'asseoir à son bureau tant qu'elle n'a pas dit bonjour à toutes les personnes présentes dans l'open space. Est-ce qu'il ne faut pas revenir aussi à des choses basiquement humaines, s'intéresser aux gens?
Oui, oui, tout à fait. Donc le bonjour, moi je trouve que c'est vraiment, je vous rejoins complètement, la base de la base. Après, ce que j'entends parfois, c'est oui, mais je ne lui dis plus bonjour à ce collègue-là parce qu'en fait, il a le nez focalisé sur son ordinateur ou il me répond à peine du bout des lèvres.
Oui, c'est comme, on peut le dire, ça.
Ah oui, bah déjà on peut le dire. On peut dire bonjour avec le prénom. Déjà ça marque un petit peu plus. Ouais. On crée un petit peu plus de connexion avec la personne. Elle se sent un petit peu plus visée. C'est à elle que vous dites bonjour et c'est pas un espèce de bonjour généraliste, j'ai envie de dire.
Oui, c'est dans genre bonjour les nazes.
Le ben, en fait, on se sent. En fait, il faut savoir un truc, c'est que nous, les humains, on aime bien se sentir particulier et unique.
Oui.
Donc là-dessus, je veux dire, la reconnaissance en travail, je vais rien vous apprendre, c'est quand même un des fondamentaux du management. Donc reconnaître l'autre, c'est déjà reconnaître son existence. Donc lui dire bonjour, c'est lui dire je te reconnais en tant que coéquipier, en tant que collaborateur, et tu fais partie de l'équipe. Ne pas dire bonjour, c'est exclure la personne. Et là, je vais faire une petite parenthèse psychoscientifique, c'est que pour notre cerveau, c'est exactement la même chose, le fait de se sentir rejeté ou mis à l'écart. C'est vécu de la même manière par notre cerveau que, par exemple, une douleur physique.
Ah oui ?
Oui, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Donc, quand je le dis en formation ou en coaching, je dis, ben voilà, en fait, là, votre collaborateur, quand vous lui avez fait ce feedback négatif sous le coup de l'impulsion, des émotions, ben en fait, c'est un peu comme si vous lui aviez mis une baffe pleine figure. C'est un peu cet équivalent-là.
D'accord. C'est ouais. Pour ça que quand on fait un feedback négatif, généralement, on conseille de toujours l'entourer par 3 feedbacks positifs.
Aïe, alors là, alors ça c'est, oui, là-dessus on va pas être tout à fait d'accord.
C'est vrai? Ben,
oui, c'est ce qu'on appelle la méthode sandwich. Ouais. Ben, en fait, la problématique de ça c'est un conseil qui est souvent donné, mais le souci c'est que ça va diluer le message. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un feedback positif. Donc, déjà, souvent, maintenant, le collaborateur, quand il vous pratique depuis un petit moment, il sait que son manager, quand il commence par un truc positif, va lui sortir non, le...
Ça peut se faire de façon intelligente, Audrey. Aussi.
Oui, non, mais... et puis, repartir sur quelque chose de... Après, là, par contre, où je rejoins le dernier point positif, c'est plutôt de donner des encouragements. Oui. C'est-à-dire alors moi j'appelle ça insuffler de la confiance.
Oui, le feedback, c'est-à-dire en fait, j'aime bien ça, c'est pas du feedback négatif, c'est du feedback constructif. On part de quelque
chose. Tout à fait.
L'idée c'est de faire progresser les gens et de pas leur mettre des baves dans la tronche. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le bonjour et je vais vous raconter une anecdote et j'aimerais bien voir votre analyse psychologique du manager qui a fait ça. Il y a une lectrice qui m'envoie un mail pour me dire « Je ne comprends pas, mon boss me dit jamais bonjour le matin, mais il dit bonjour à l'équipe d'à côté. » Je dis « Écoutez, demandez-lui. » Et le lendemain, elle me répond, elle fait « Écoutez, Gaëlle, j'ai demandé. » Et voilà ce que m'a répondu mon manager. « Écoute, je vais dire bonjour à l'équipe d'à côté parce qu'ils sont sympas. Et mon équipe, je ne dis pas bonjour parce que ça fait trop copain-copain. » Qu'est-ce qu'il faut penser de ce manager, mis à part qu'il faut qu'il change de métier?
Alors là, ça pose vraiment question de ses représentations personnelles. Voilà. C'est comment il se représente l'idée de... Dire bonjour, c'est créer finalement un sentiment de proximité beaucoup trop intense. Là ça va, il y a un problème, quoi.
Mais on a le droit de parler à son... Moi, c'est ce que je le dis très souvent, mais le rapport au pouvoir... Là, j'abuse de votre temps, parce qu'on dérive un peu du burn-out, mais justement, quand on sent qu'on va être en burn-out, où il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut un moment casser cette espèce de respect de la hiérarchie qui fait qu'on se dit « je ne peux pas dire à mon manager que ça ne me plaît pas, etc. » Il faut dépasser cette peur.
Alors, c'est très compliqué. Moi, je dirais que la première chose pour une personne qui est en burn-out, c'est vraiment d'en parler. Mais en parler à une personne proche ou à son médecin ou à quelqu'un de sa famille. Parce que la problématique de base, c'est que la personne reste seule. Il y a un sentiment de honte aussi.
Oui, il y a cette culpabilisation de la personne en burn-out qui se sent faible.
C'est ça, incapacité à faire son travail correctement. Alors parfois, c'est juste les exigences professionnelles qui sont beaucoup trop élevées par rapport aux moyens qu'on lui donne. Et ça, c'est très compliqué. Casser la peur, vous voyez, par exemple, juste dire non à quelqu'un, c'est très compliqué, même à un collègue. Donc, on pourrait se dire que là, il n'y a pas de niveau hiérarchique qui joue. Mais savoir dire non, donc savoir exprimer un désaccord, c'est encore plus dur.
Vous savez que j'ai inventé un concept, Audrey, que je vais vous soumettre, c'est le non positif.
Oui, ouais, c'est quoi?
C'est non, je ne peux pas le faire maintenant, mais est-ce que ça te va si je le fais dans une semaine?
Oui, c'est proposer une alternative. Ouais. Ouais.
Et ça déculpabilise vachement. Je ferme la parenthèse, je voulais frimer vis-à-vis de vous sur un concept psychologique à deux francs.
Alors, moi, je donne le même conseil. Alors, le non est très, très dur à dire. Oui. Pourquoi? Parce que on a un côté... Je me permets de rouvrir une petite parenthèse encore, vulgarisation.
Mais j'adore vos parenthèses, allez-y. Ouvrez donc.
C'est que donc l'humain, en règle générale, a cette tendance à se conformer. Alors, c'est quelque chose que notre ego n'aime pas trop entendre, parce qu'on aime bien, comme je le disais tout à l'heure, être unique et libre de choisir ses gestes et pensées. Mais on a cette tendance à se conformer au groupe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dire non ou penser différemment, c'est quand même compliqué. Ça demande une certaine affirmation de soi. Mmh. Et cette affirmation de soi, c'est quelque chose qui se travaille. Et en règle générale, pour les personnes qui ont des problèmes, on va dire, d'assertivité, ce que je propose, c'est plutôt voilà, de trouver un petit peu, comme ce que vous évoquiez, une alternative. Donc, il n'y a pas le non du départ, mais il y a cette idée de bah, « écoute, je vais voir ce que je peux faire pour toi » ou « je vais voir ce que je peux faire » ou « laisse-moi un temps pour vérifier je sais pas, bon, au niveau des priorités ». C'est toujours de demander une alternative. Après, il y a quelque chose qui peut se faire aussi côté manager, quand vous avez un collaborateur qui est très, très, comment dire, qui a du mal à dire non et que vous le savez, c'est d'éviter les demandes en face à face. Donc, idéalement, voilà, de proposer, de faire une requête par mail en laissant une espèce d'ouverture, en lui disant, ben voilà, j'aurais besoin de, voilà, que tu me rendes ce dossier ou que tu gères telle ou telle tâche. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses avoir le temps de le faire pour...
Mais est-ce que c'est marrant que vous disiez ça, parce que quand j'étais manager, je mettais toujours très à l'aise mes collaborateurs et collaboratrices en disant « Si jamais vous ne pouvez pas faire quelque chose par rapport à un délai que je donne, vous me dites non. » Et est-ce que ce n'est pas le rôle du manager, justement, de mettre très à l'aise les gens en disant « Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. » Ça, c'est un patron de chez Renault, d'une filiale de chez Renault, qui, quand il y a un nouvel entrant qui arrive, il y a une feuille qu'il écrit à la main. Bonjour machin, bienvenue chez nous. Chez nous, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de me dire non. Bref, tous les droits. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même du manager qu'on ne reconnaît pas assez fortement aujourd'hui?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc là, finalement, on parle de culture d'entreprise, en fait. Oui, c'est de la responsabilité du manager, mais je dirais c'est au-dessus de ça, de la responsabilité de l'entreprise, en fait, de former ces managers, de leur donner les bons outils. Parce qu'aujourd'hui encore, moi, ce que je constate, c'est que parfois, il y a une espèce de... Comment dire? Je vois des managers avec plein d'outils, qui ont empilé des outils, qui finalement sont plus ou moins efficaces. Ils n'ont pas vraiment de repères, et surtout, on ne les forme pas à comprendre comment fonctionne notre cerveau humain, comment pense un être humain, comment il réagit, etc.
Oui, c'est souvent du bon sens qu'on oublie, en fait.
Ben, là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait du bon sens, c'est plutôt voilà, vraiment comprendre les règles, souvent j'appelle ça moi les règles cachées du fonctionnement humain, le mode d'emploi vraiment, de comment on prend des décisions, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif, comment on peut ben, voilà, justement mettre à l'aise la personne, comment mieux cerner sa personnalité pour pouvoir s'adapter et trouver le bon canal de communication. Donc c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir les bons outils, parce que sinon on fait appel à notre bon sens, au sens commun, sauf que le sens commun, il n'est pas commun à tous. Ouais, c'est vrai qu'on est tous différents là-dessus.
J'ai une dernière question, ma chère Audrey. Pourquoi est-ce que le burn-out est encore un énorme tabou aujourd'hui dans les entreprises, alors que je pense que toutes et tous, on a connu soi-même ou des gens dans notre entourage qui ont fait des burn-out, donc on ne peut pas parler d'un épiphénomène, on parle quand même de quelque chose qui augmente depuis des années. Et moi, j'ai très, très peur, je vous le dis. Il aura fallu attendre 2008 et une vague de suicides chez Renault France Télécom pour qu'on parle de QVT. Il aura fallu attendre une pandémie pour qu'enfin on parle du bien-être au travail de façon massive et qu'on intègre du télétravail. Est-ce qu'il va falloir qu'on attende 5 millions de burn-outés pour qu'enfin le burn-out ne soit plus un tabou? Puisque j'ai le sentiment quand même que le fait que ce soit un tabou renforce la dureté de l'expérience pour les gens qui malheureusement en font un.
Oui, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de solitude qui ressort à chaque fois.
Moi, quand je l'accompagne. Ça tient à quoi ce tabou? Qu'est-ce qu'il faudrait pour lever le tabou?
Alors, déjà qu'il y ait de plus en plus de personnes qui témoignent finalement de leur burn-out. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est en train de se faire, c'est en train de changer. mais qui est aussi peut-être des personnes à différents niveaux. Il y a aussi des managers qui font des burn-out. Mais voilà, vraiment, je trouve qu'ils n'en parlent pas assez. C'est pas quelque chose qui est connu. Enfin, gérer l'humain en soi, c'est quand même extrêmement complexe. Et je pense que plus on va avoir de personnes qui vont témoigner, alors on a quand même, je dirais, enfin la chance, je sais pas, mais en tout cas l'opportunité d'utiliser, je dirais, les réseaux sociaux aujourd'hui pour porter des messages, pour faire comprendre qu'un burn-out, c'est pas quelque chose d'isolé, qu'il n'y a pas de honte à avoir, mais c'est souvent ce sentiment de honte malgré tout qui emprisonne.
Mais peut-être qu'un jour il faudrait que ça soit enfin, et ça, moi je milite depuis quelques années sur le sujet, reconnu en tant que maladie professionnelle.
Et voilà, donc ça se joue aussi à ce niveau-là. Après, c'est reconnu, là, je lisais qu'effectivement, c'est reconnu maintenant dans la CIM 11, donc la classification internationale des maladies, comme résultant d'un...
Comme trouvant son origine, enfin, c'est totalement faux, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avant que cette résolution passe, ça avait été reconnu comme officiellement une maladie professionnelle, et il y a eu un recul de l'OMS sur le sujet sous la pression des lobbies.
Voilà, donc là, ça se joue aussi à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en burn-out? Vous allez chez votre médecin et il met dépression. Donc, c'est évoqué comme étant une dépression, ce qui n'est pas tout à fait... on ne va pas rentrer dans le débat, mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Mais c'est même pas du tout la même chose, mais ça fera l'objet d'un autre épisode, Audrey. Donc nous arrivons, alors j'en suis très triste, mais très honnêtement, j'aurais bien parlé pendant 3 heures avec vous sur le sujet, mais malheureusement, les épisodes de Happy Work ne font que 20 minutes, 30 minutes pour les interviews. Est-ce que vous avez bien travaillé, parce que comme à chaque invité, je demande de préparer une citation ou un mantra préféré, de nous expliquer pourquoi ce choix. Audrey, la psy qui parle, avez-vous bien travaillé?
J'espère. Écoutez,
vous avez vu, je prends ma voix grave pour dire ça.
Alors Gaëlle, pour tout vous dire, j'ai pensé à deux choses. Alors, il y a ce que je me dis le matin quand je me réveille.
Mince, il est tôt.
Oui, il y a ça, mais c'est un peu la méthode Coué. Hein, c'est « je suis en pleine forme ». Voilà, ça c'est pour me mettre dans le bain.
Ah, c'est marrant. Alors, j'aurais jamais cru qu'une psy utiliserait la méthode Coué.
Oh ben si, parce que ça marche quand même. Enfin, après, c'est de l'auto-persuasion, hein, mais c'est plutôt pour mettre mon cerveau, je dirais, dans de bonnes dispositions.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Après, c'est plus ou moins efficace parfois, hein, mais voilà. L'idée, c'est de démarrer, non pas. C'est plutôt de casser la pensée négative qui pourrait survenir, charge de travail ou autre. Enfin, bref. Et après, voilà, il y a autre chose qui. C'est une citation qui vient d'un grand philosophe fictif que vous allez peut-être reconnaître, qui dit fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Donc ça, c'est Maître Yoda.
Et alors, non, mais j'étais en train de chercher, ça y est, elle m'a collé, mais ça vient d'où? Et pourtant, ça, moi, je connais très bien. Maître Yoda ne m'est pas venu à l'esprit.
Donc, pour donner la petite explication, c'est que voilà, moi, je suis quelqu'un qui a, vous l'avez peut-être compris avec ma chaîne YouTube, qui a pas mal d'idées, un côté créatif assez présent. Ouais. Et puis, j'ai aussi un côté doute qui vient régulièrement. Donc, cette phrase-là, c'est vraiment pour me recentrer et dire, OK, maintenant, Audrey, t'as cette idée, tu te lances sur ce chemin-là, tu te lances à fond et c'est pas la peine de s'éparpiller. Et lance-toi vraiment et pas en demi-teinte.
Oui, c'est ça. Mais en fait, je compare souvent la prise de décision au fait de sauter d'un plongeoir de 10 mètres. C'est un moment, quand on est lancé, on ne peut pas revenir en arrière.
C'est ça.
Donc, voilà. Super. Audrey, mille merci. Donc, j'ai passé un excellent moment. J'engage tous les auditeurs de Happy Work à aller découvrir votre chaîne YouTube, votre Insta. Ça vous ressemble beaucoup. En fait, c'est ça qui est bien. J'aime bien. Certains YouTubeurs, certains blogueurs... quand on leur parle, ça ressemble vraiment au contenu qu'ils délivrent au quotidien, même quand on leur parle en live. Donc, merci beaucoup de ce cadeau.
Merci, Gaëlle.
Je vous dis, je le ferai très bientôt. Peut-être que je vous réinterrogerai prochainement sur un autre sujet. Et je finirai avec vous, comme je finis tous mes épisodes de Happy Work, en vous disant, avant toute chose, prenez soin de vous, Audrey. À très bientôt.
À bientôt.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.